Quand on lit, quand on médite, quand on rumine la Bible, on voit apparaître quelque chose du visage de Dieu et on voit apparaître aussi quelque chose du visage de l'homme. Et l'on voit qu'il y a entre l'homme et Dieu une certaine différence, parfois grande différence. Et l'une de ces différences, c'est que nous autres, les hommes, nous avons une passion pour la comptabilité, une passion nocive pour les comptes d'apothicaire, et que cette passion de compter est finalement très loin de l'incroyable générosité de Dieu. Et on le voit bien dans cette question de cet inconnu. Sur la route de Jérusalem, Jésus marche, et quelqu'un lui dit « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Et vous entendez dans ce « peu » à la fois la mesquinerie et aussi un autre sous-entendu, c'est que j'appartiens à ce « peu ». J'appartiens à ce petit club, à ce petit groupe de VIP, d'élus. Et que cet homme ne se pose même pas la question, mais que tous soient sauvés. Que l'on trouve dans l'Évangile, Dieu veut que tous soient sauvés. Lui, il dit, n'y a-t-il bien peu qui seront sauvés, dont moi ? Et cette tentation, on la voit à longueur de temps dans l'Évangile. Souvenez-vous, la mère de Jacques et Jean, une mère qui nous ressemble, elle vient voir le Seigneur et lui dit, « Seigneur, fais que mes deux fils ici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Ailleurs dans l'Évangile, alors que Jésus vient d'annoncer à ses apôtres, à ses disciples qu'il va mourir, que font les disciples ? Ils se disputent pour savoir qui est le plus grand, qui va être le premier, qui va être l'élu. Seigneur, n'y a-t-il peu de gens qui soient sauvés ? Et Jésus ne va pas donner une réponse, il ne va pas donner un nombre, ce nombre que cet homme attend. Mais en un certain sens, il va véritablement le prendre au mot. Il va prendre au sérieux cette demande, mais il va la retourner et l'adresser à cet homme et l'adresser à nous tous. Parce qu'il va, cet homme qui finalement sous-entend qu'il appartiendra au groupe des élus, à cet homme Jésus va multiplier presque à l'infini les exigences. Et il va commencer par lui dire, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Jésus ne répond pas combien de gens seront sauvés, mais il nous renvoie cette question. On ne peut pas échapper à cette question. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il va encore pousser le bouchon plus loin et d'une manière extrêmement rude. Et il va parler de ce maître de maison qui va fermer la porte. Et alors ceux du dehors vont se mettre à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous ». Et en fait, ces personnes vont être jetées dehors, ne pourront pas rentrer. Elles vont dire au maître de maison, mais nous avons mangé, nous avons bu en ta présence. Nous faisions route avec toi. Mais le maître de maison va leur dire, mais non. Vous étiez peut-être avec moi, physiquement, mais votre cœur n'y était pas. Vous vous mentiez à vous-même. Vous n'étiez pas transformé par l'Évangile. Et vous avez entendu ces paroles extrêmement dures. Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Vous pensiez que vous étiez mes compagnons, mes élus, mes fidèles disciples, mais votre cœur n'y était pas. Mais vous n'étiez pas dans l'authenticité d'une vie transformée. C'est un évangile extrêmement dur qui nous est donné d'entendre ce matin, et à moi, prêtre, un évangile extrêmement dur de commenter. Mais je crois qu'on ne peut pas négliger, comme dit la deuxième lecture de ce jour, la lettre aux Hébreux, on ne peut pas négliger ces leçons du Seigneur et surtout ne pas nous décourager quand il nous fait des reproches. Car, dit la lettre aux Hébreux, quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons, il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Et Vous aurez entendu dans cette dernière parole tous ceux qui l'accueillent comme ses fils, finalement la bonne nouvelle. C'est qu'à travers ces réprimandes, le Seigneur nous révèle notre dignité d'être ses fils et ses filles. Mais de notre côté, il faut nous efforcer d'entrer par la porte étroite, c'est-à-dire d'avoir une conduite ajustée, une conduite digne de cette condition magnifique de fils et de fille. Et il est évident que cette question de l'inconnu sur la route de Jérusalem, elle ne cesse d'être entendue, parce qu'elle ne cesse d'être cette tentation qui nous guette tous, qui guette toute l'Église, de s'enfermer sur elle-même, de faire le petit club des gens parfaits, le petit club des gens qui sont en règle. Mais ce serait de l'illusion. Et vous savez, c'est très très beau. Je trouve que c'est très très juste. À chaque messe, on commence par « Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Reconnaissons que nous sommes, nous ici, nous ne sommes pas les meilleurs, que nous ne sommes pas les plus vertueux. Mais nous sommes en chemin portés par la miséricorde et la confiance du Seigneur. Nous sommes quelques-uns, oui, dans cette vaste humanité, dans ce vaste monde. Nous, chrétiens, nous sommes quelques-uns qui ont reçu la grâce d'être baptisés. Et cette eau du baptême qui est tombée sur nos têtes nous permet, qui peut-être a irrigué notre intelligence et nous permet de comprendre quelque chose de la foi, mais cette eau du baptême tombée sur nos têtes doit de plus en plus descendre au fond de nos cœurs afin que ce soit non seulement notre intelligence, mais toute notre vie qui soit modelée et transformée par l'Évangile. Et c'est exactement cela, je crois, le sens de entrer par la porte étroite. Mener cette vie digne de l'Évangile. Laisser cette eau du baptême prendre possession de vous, de nous tous, afin que se creuse en nous cette profondeur que le Christ désire pour chacun de nous, que se creuse par la prière, par la rumination des Écritures que nous faisons ensemble de dimanche en dimanche, que se creuse cette profondeur par une amitié intense avec Jésus. Au fond, être chrétien, c'est pas avoir une carte, c'est pas une identité, c'est une aventure, c'est une rencontre, c'est une amitié avec Jésus. Et cette authenticité qu'elle nous recouvre de plus en plus. Et comme disait, vous savez, le bienheureux Charles de Foucault, ce très beau saint, il est bienheureux, il n'est pas encore saint, mais ce prêtre français qui était parti vivre au Sahara parmi les Touaregs, qui était le seul chrétien parmi des Touaregs tous musulmans, Charles de Foucault disait « Que je puisse crier l'Évangile, non pas en paroles, mais par toute ma vie. Que toute ma vie soit une signature de l'Évangile, que ma vie, par sa cohérence, par son authenticité, n'insulte pas l'Évangile, qu'il n'y ait pas de contradictions qui vont insulter l'Évangile, afin que silencieusement cet Évangile et cette nouveauté de Jésus soient de plus en plus transmis à tous ces hommes et ces femmes qui l'attendent, qui attendent le visage de Jésus. » Vous aurez peut-être remarqué que l'évangile de ce matin a la forme d'un entonnoir. Vous voyez tout ce que c'est un entonnoir, un vase assez large, et puis il se rétrécit afin de passer dans un goulot d'une bouteille. À la question, y a-t-il bien peu qui soient sauvés, finalement, le Seigneur, quand il répond et quand il parle de ce maître de la maison qui va fermer la porte, il devient très inquiétant parce qu'on peut se demander, mais finalement personne ne sera sauvé. Donc là, c'est cette forme de l'entonnoir. Et tout d'un coup, Jésus, le Seigneur Jésus, renverse l'Évangile. Et de ce qui était étroit, va devenir infiniment spacieux, infiniment large. Et vous avez entendu, l'Évangile se termine par cette vision et cette promesse. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume des cieux. Et là, c'est toute l'humanité qui rentre et qui fait sauter cette question mesquine, y a-t-il bien peu qui sera sauvé? Là, c'est toute l'humanité qui vient s'asseoir à la table du festin du royaume de Dieu. Et c'est précisément cela, cette générosité de Dieu, dans lequel il nous faut rentrer par une véritable conversion. Nous qui aimons les contes d'apothicaire, il faut rentrer dans cette incroyable générosité du Seigneur qui ouvre le plus largement possible les portes avec ce désir de rassembler le monde. ce que nous avons entendu dans la première lecture, le prophète Isaïe, « Je vais rassembler toutes les nations de toutes langues, elles viendront et verront ma gloire. » Ça, c'était l'espérance du peuple d'Israël, d'être le ferment de ce rassemblement du monde à Jérusalem. Et cette espérance d'Israël, c'est l'espérance de l'Église. L'Église, nous le savons tous, n'est pas ce petit club d'élus, de parfaits, de VIP. Mais l'Église est dans le monde ce lieu qui rassemble toute l'humanité dans la communion et la paix. L'Église, au milieu de ce monde lacéré de guerre et de division, est déjà le signe de ce rêve de Dieu, de cette générosité de Dieu de rassembler toutes les nations. Et dans la première lecture qui nous a été lue, il y avait aussi cette très belle phrase « J'enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n'ont rien entendu de ma renommée, qui n'ont rien vu de ma gloire. J'enverrai vers ces îles éloignées certains de mes enfants afin qu'ils fassent connaître ma gloire, afin qu'ils parlent de moi à ceux qui n'ont encore rien entendu. » Pour moi, vous imaginez que, en tant que missionnaire français, prêtre du diocèse de Chambéry, missionnaire des missions étrangères de Paris en Inde et au Népal, cette phrase me touche parce qu'elle décrit cette vie que l'Église m'a appelé à vivre, de partir vers ces lointains, et non seulement vers la très belle Église de l'Inde, mais de partir vers presque 1 milliard d'hindous avec lequel je vis au jour le jour à Bénarès avec mes sœurs. Nous sommes une petite poignée de chrétiens dans le quartier le plus sacré de Bénarès, au milieu de nos frères hindous et musulmans, au milieu de cette blessure qui traverse la société indienne. De plus en plus, les fondamentalistes hindous sont au pouvoir, de plus en plus les tensions s'alourdissent, de plus en plus nos frères musulmans sont marginalisés, mais nous, comme chrétiens, pauvrement, 15 personnes, même pas, on est peut-être 12 maintenant avec mes sœurs sur les bords du Gange. Il y a beaucoup plus de chrétiens dans Bénarès, mais dans le quartier le plus sacré, nous sommes 12. Nous essayons d'être ce lieu de communion entre hindous et musulmans, d'avoir une main dans chaque religion, de tisser ces amitiés avec eux et entre eux, et d'être cette petite goutte insignifiante, mais ce lieu de paix. Ça, c'est cette mission toute simple de rassemblement, mais je lis aussi dans ces paroles, il en viendra d'Orient, d'Occident, du Nord et du Sud, je vois aussi ces vies qui sont mystérieusement transformées par l'Évangile et par Jésus. Je vis avec des gens qui ne pourront pas être baptisés, pour la plupart, pour des raisons sociales, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rompre avec la famille en étant baptisé, mais lorsque ces frères hindous se mettent à connaître le Christ, alors ils sentent cette nouveauté, ils sentent qu'il y a quelque chose de nouveau, ils sentent qu'il y a une profondeur, ils découvrent aussi la valeur de leur propre vie. Et récemment au Népal, je revois ce parcours avec un hindou brahman, un prêtre hindou qui découvre le Christ, qui m'a d'ailleurs demandé de le préparer au baptême, et je le vois découvrir avec tant d'amour Jésus, avec tant d'intensité d'essayer d'ajuster sa vie à ce qu'il découvre quand il lit les évangiles. Il n'est pas encore chrétien, il n'est pas encore baptisé, mais il vit déjà quelque chose de l'évangile. Et pour moi, je peux dire que c'est une bonne leçon, cette leçon dont parlait la lettre aux Hébreux. Car moi, le vieux chrétien, moi qui d'un certain côté pourrais dire « mais je suis le premier », je me retrouve le dernier parce que auprès de ce dernier, ce frère hindou qui devient chrétien, eh bien, je redécouvre ce que c'est que l'Évangile, le feu qu'est l'Évangile. Et ce frère hindou qui découvre le Christ me fait redécouvrir Jésus. Parce que c'est pour nous tous qui sommes des anciens chrétiens, je pense pour la plupart d'entre nous, baptisés dans notre enfance, la tentation, c'est de nous habituer à Jésus et d'oublier cette puissance qu'il porte, ce feu qu'il porte. Oui, je peux dire qu'il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume des dieux. Il y a des derniers qui seront premiers, des premiers derniers. Mais cette leçon de l'Évangile de ce matin, cette leçon très exigeante, je pense que nous tous en France, nous pouvons la faire nôtre. Vous savez bien mieux que moi, puisque je ne vis plus en France, que l'Église a beaucoup perdu dans les scandales récents. a été éprouvant, et c'est très éprouvant. J'entends mes amis jeunes prêtres qui sont presque désespérés de cette accumulation de scandales. L'Église a beaucoup perdu, mais d'un certain côté, peut-être faut-elle qu'elle perde encore pour devenir vraiment humble, pour qu'elle devienne cette Église, qu'elle soit libérée de la tentation de l'élitisme des parfaits, pour qu'elle peut-être arrête de donner des leçons au monde, puisque on nous fait souvent le reproche, au niveau des chrétiens, vous faites des leçons au monde, mais regardez la vérité. Alors peut-être que cette perte, elle est libérante, parce qu'elle va de plus en plus nous rendre dignes de l'Évangile, elle va nous rendre fragiles, et que c'est dans la fragilité même que l'Évangile brille. Et elle va nous faire entendre d'une nouvelle façon cette épreuve que nous vivons, que l'Église vive. Elle va nous faire entendre d'une nouvelle façon. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Et que nous sortant de ces pièces renfermées, comme dit le pape François, alors on entend l'humanité qui frappe à la porte. Et dans ses frères qui viennent d'Orient, d'Occident, du Nord et du Sud, comment ne pas entendre le cri muet de tous ces immigrés qui passent la Méditerranée, vous le savez très bien, bien plus que moi. Comment ne pas dire au nom de toute l'Église, bienvenue, bienvenue dans cette Église, dans ce mystère de communion, bienvenue à tous ceux qui portent des blessures dans leur vie, que seul l'Évangile peut guérir. Bien sûr, bienvenue à tous ceux qui ont échoué dans leur vie, dans leur profession, dans leurs amours, bienvenue, vous aurez des frères et des sœurs pour vous aimer, pour marcher avec vous dans cette Église. Bienvenue à tous ceux qui n'appartiennent pas aux normes dictées par la société, la morale. Bienvenue à tous ceux qui sont seuls et qui cherchent des frères et des sœurs. Et on pourrait allonger la liste. Et l'Église a fait tellement, déjà tant pour la société en France et dans le monde. Mais il faut faire toujours davantage, servir davantage, aimer davantage, et finalement de cette façon entrer par la porte étroite, à la fois en devenant plus spirituel, c'est un témoignage que je reçois beaucoup de René Pichon, et je crois qu'il vous appelle tous à nous spiritualiser, à entrer dans une plus grande amitié avec Jésus, et en même temps devenir toujours plus authentiquement évangélique dans nos vies. Je crois que c'est l'invitation du Seigneur ce matin, une invitation qu'un prêtre lyonnais, qui m'est très cher, Jules Montchanin, parti en 1939 aux Indes, résumait de cette façon. Nous désirons tous une Église plus présente au monde, plus présente à ce vaste monde, et d'autant plus vouée à l'Éternel. Une Église toujours plus spirituelle, intérieure, et en même temps largement ouverte. Une Église qui ne connaît pas de porte fermée. Amen.